Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Voilà l'attitude, la situation d'un homme dans la souffrance. Cet homme dit « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. » Voilà donc une première parole. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Si maintenant je vais avec vous dans les Proverbes au chapitre 17 pour lire le verset 25, il est dit cette fois-ci, un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de sa mère. Et puis, cette fois-ci, dans l'épître aux Hébreux, c'est presque à la fin, chapitre 12, on va lire au verset 14, Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. » On va prier à nouveau le Seigneur. Gloire à ton nom. Jésus, toi le Fils de Dieu, tu te tiens au milieu de nous. Tu en as fait la promesse dans ta parole, tu as dit toi-même, « Lorsque deux ou trois se rassembleront en mon nom, je serai au milieu d'eux. » Seigneur, nous ne mettons pas en doute ta parole. Tu es là, présent dans ce lieu. Ta parole est la vérité. Ton esprit est à l'œuvre au milieu de nous pour convaincre les âmes. Et que vraiment ta grâce soit accordée à tous. Sommes là parce que nous voulons veiller à ce que la grâce de Dieu soit communiquée à chaque individu, que personne n'en soit privé, et que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en profondeur dans les cœurs, pour que chaque vie soit débarrassée de tout ce qui a un goût amer. Nous comptons sur ta fidélité, et nous nous attendons à toi, dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Ce matin, je me suis cassé la voix. Cet après-midi, je vais essayer d'aller jusqu'au bout avec vous. Mais je crois que l'intérêt de ce message, vous l'avez compris, c'est d'essayer d'aborder ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, et justement d'y apporter une solution. Vous avez compris, dans les textes que nous avons lus, qu'il est question d'une chose particulière. Il s'agit de quoi ? L'amertume. Il est question d'amertume. Donc on va y revenir dans quelques instants. Je voudrais avant tout vous dire, chers amis, que le Seigneur n'est pas pour vous un juge. Il ne vous a pas attiré dans ce lieu pour vous parler et vous condamner. Il vous a attiré dans ce lieu pour vous parler et vous révéler qu'il vous aimait. Dieu est un Dieu d'amour. J'aime à dire, le Seigneur nous connaît, mais malgré tout, il nous aime. Le Seigneur me connaît, et pourtant il continue à m'aimer. Et rien n'est plus précieux pour moi que l'amour de Dieu. Et je voudrais vous dire que vous êtes aimés de Dieu. La Bible nous dit que Dieu n'aime pas le péché. Il est le péché. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu aime le pécheur. Et si tu es un pécheur, une pécheresse, Dieu t'aime. Je voudrais aussi te dire que si le Seigneur aime le pécheur, il a décidé de pardonner ses péchés et de le débarrasser de ce qui souille son âme, de changer sa vie et de lui permettre de marcher en nouveauté de vie. Imaginez un petit peu cet accident, cet homme est tombé dans l'eau et il est en train de se noyer. Il boit la tasse, il n'a même plus la force de crier « Sauvez-moi !» Et finalement, vous vous jetez à l'eau et vous réussissez à attraper cet homme qui se noie. Et la première des choses que vous faites en l'attrapant, c'est d'essayer de l'amener sur la rive, de l'amener là où il pourra sortir de cet élément qui est en train de l'emmener vers le fond et de le faire périr. C'est la première des choses. Mais ensuite, vous allez comprendre très vite que comme il a bu beaucoup d'eau, il a besoin d'être dégagé. Il faut que ses voies respiratoires soient dégagées. Et le deuxième secours va consister à dégager les voies respiratoires, à essayer de débarrasser cet homme de ce qu'il a avalé, de cet élément dans lequel il est tombé. Voyez-vous, c'est exactement ce que le Seigneur fait avec notre vie. Nous sommes en train de nous noyer dans ce monde, dans le péché, dans la désobéissance, entraînés par l'adversaire de notre âme, dans la perdition éternelle. Mais le Seigneur s'est jeté à l'eau pour nous. La Bible nous montre qu'il a quitté le ciel de gloire et il est venu jusqu'à nous. Il a pris la forme humaine et il est venu pour nous sauver de notre perdition. La première des choses que le Seigneur fait, c'est qu'il nous sauve du péché. Il nous sort de notre misère. Et c'est important de s'entendre dire de la part du Seigneur, « Tes péchés sont pardonnés. Maintenant, tu es sauvé. » Mais nous avons tellement avalé de choses, tellement de choses de ce monde sont entrées en nous, que le Seigneur entreprend maintenant un autre travail. Petit à petit, il veut nous débarrasser de cet élément qui est entré en nous, pour que, au plus profond de notre cœur, dégagé de ce qui pourrait nous infecter, de ce qui pourrait nous tuer, nous puissions vivre et connaître la vraie vie et connaître aussi la vie éternelle. Alléluia. C'est pour cette raison que j'insiste, chers amis, pour vous dire que le salut de Dieu, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose de concret. Il ne s'agit pas simplement de penser que le Seigneur pardonne vos péchés, mais que vous pouvez continuer à vivre dans votre débauche, dans votre péché. Le Seigneur vous pardonne, il vous purifie, il met sur vous un sceau, mais ensuite il vous débarrasse de ce qui fait la guerre à l'âme, de tout ce qui est entré en vous, qui vous souille, qui vous malmène. De tous ces sentiments qui sont là et qui sont contraires à ce que Dieu attend de vous. Dieu veut faire un travail en profondeur pour que votre vie passe de l'amertume à la douceur. Nous l'avons lu ensemble, l'amertume, c'est quelque chose de très difficile à accepter. L'amertume peut paralyser notre vie. Et l'amertume paralyse et détruit la vie d'une multitude. Ce que Dieu veut, c'est de nous débarrasser de tout ce qui a un goût amer dans nos cœurs, de tout ce qui a ce goût insupportable, pour que la vie devienne une vie désirable, une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie dans laquelle on se construit, on fait quelque chose d'intéressant, avec dans le cœur la satisfaction d'être dans la volonté de Dieu, avoir en nous l'approbation du Seigneur et savoir que ce que nous accomplissons ici-bas contribue à l'avancement du royaume de Dieu, d'avoir cette satisfaction de connaître ce qui est doux, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui construit, ce qui plaît à Dieu. Et ce que le Seigneur vous propose, c'est justement de faire cette œuvre. C'est pour cette raison que je pose la question, désirez-vous être sauvés de la noyade? Désirez-vous, chers amis, que la grâce de Dieu vous soit accordée, non seulement pour que la situation dans laquelle vous êtes soit changée, mais surtout pour que la douceur de la grâce de Dieu coule comme du miel au plus profond de votre être, et que vous commenciez à apprécier la vie comme elle doit être appréciée, dans le bon sens, dans la bonne direction, d'une manière qui honore le Seigneur, dans la pureté, dans la vérité, dans la droiture. Oui, ce qui est doux est contraire de ce qui est amer. Et nous avons l'habitude ici-bas de connaître ce qui est amer. Et nous sommes un peu comme cet homme, la Bible nous parle de Job, cet homme qui est là dans une situation, on en parlera dans quelques instants, mais il en arrive à dire, mon âme est dégoûtée de la vie. Pour cette raison que je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Voilà un homme qui dit, j'en ai ras-le-bol. Je suis dégoûté de cette vie. J'en peux plus de vivre ce que je vis. Alors ne me dites plus maintenant de me taire. Je donnerai libre cours à ma plainte. Je veux exprimer ce que je ressens. Je veux dire l'amertume qui est dans mon cœur. Je veux en parler comme si cet homme d'un seul coup se révoltant. Amen. Je dirais à la surface, tout ce qui est enfoui en lui, il a envie de vomir cette réalité, comme s'il disait, y a-t-il quelqu'un pour m'aider, pour me secourir? Le psalmiste disait à un moment donné, mais qui me fera voir le bonheur? Mais il a trouvé la solution. Il dit au Seigneur, fais lever sur moi la lumière de ta face. C'est toi, Seigneur, qui peux m'aider et me secourir. Alors, je souligne le fait qu'il y a différentes sortes d'amertume. Il y a l'amertume que nous ne pouvons pas éviter et qui est liée aux circonstances dans lesquelles nous sommes plongés involontairement. Et il y a une autre forme d'amertume, c'est l'amertume de ce que notre cœur produit alors que celui-ci peut-être est blessé et malmené. Mais j'y reviens dans quelques instants. La première des amertumes et la définition que l'on pourrait donner, c'est quelque chose de dur, quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui est là et c'est tellement douloureux, c'est difficile à supporter. C'est peut-être une épreuve qui est pénible, une situation difficile, c'est peut-être un deuil, c'est peut-être une persécution, c'est peut-être une trahison, une incompréhension. Peut-être que tu t'es dit, tu étais plein d'espérance, oh moi je crois à la vie, et tu as misé sur un homme, tu as misé sur une femme, et tu as dit, mais avec lui, avec elle, je vais réussir, je vais construire quelque chose de beau, quelque chose de grand. Et puis, le temps a passé et tu t'aperçois que cette personne, elle n'est pas celle que tu croyais, parce qu'elle se révèle maintenant sur un autre jour. Tu as une autre vision de la réalité, cette même personne qui te disait à l'oreille, je t'aime et je n'aimerais que toi, t'as trahi. t'as rejeté, t'as blessé, t'as piétiné, t'as méprisé, et tu ressens dans ton cœur une profonde blessure, peut-être que tu t'es débattu, et pendant un temps tu as cru que tu pourrais t'en sortir, et finalement, aujourd'hui tu es comme résigné, tu as un goût amer au fond de ton âme, tu n'oses même pas en parler autour de toi, parce que tu dis ça c'est personnel et à quoi ça sert d'en parler. Et tu as l'impression que c'est comme une souffrance que tu dois garder en toi tout le restant de ta vie. C'est quelque chose de difficile, ça a un goût amer. Je prends cet exemple parce que c'est ce qui vient sur mon cœur, mais il y a peut-être bien d'autres exemples. Tu ressens cette blessure intérieure, tu as un goût amer, c'est comme, vous savez, comme un fiel. C'est comme cette poche de fiel qui est comme percée à l'intérieur, ça s'écoule. Imaginez que vous ayez à manger un bon repas, mais on n'a pas veillé au moment de préparer ce repas, la personne sans faire exprès a percé la poche de fiel, et le fiel s'est répandu, vous ne le savez pas. D'un seul coup, vous avez ce goût, vous pensiez vous régaler, et vous avez ce goût amer. C'est un peu la réalité de la vie pour une multitude de gens. Goût amer, ça s'écoule en vous, et vous êtes là dans l'abattement. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur, vous n'avez pas pu éviter cette amertume, vous n'avez pas pu éviter cette épreuve. Mais Dieu a le pouvoir de changer ce qui est amer en douceur. Il veut prendre en main ta vie. Il veut te mettre dans l'axe, dans le bon chemin, dans le droit chemin. Et non seulement cela, mais il veut te débarrasser de tout ce qui a infecté ton âme, de tout sentiment contraire à ce que lui désire trouver en toi. Il veut non pas que tu vomisses de l'amertume, que tu fasses du mal autour de toi, mais il veut faire de toi un sujet de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Dieu a le pouvoir de reconstruire ta vie. Et combien de fois nous l'avons vu, et nous avons assisté à ce miracle, et nous pouvons aujourd'hui bénir le Seigneur. J'en prends à témoin les exemples de l'Écriture. La Bible nous parle dans le livre de Ruth, Ruth, c'était une jeune femme du pays de Moab. Et alors qu'elle vivait à Moab, un jour, elle a vu arriver dans son pays toute une famille. Et cette famille, c'était Naomi, avec son mari et ses deux enfants. Et la parole de Dieu nous dit que Ruth est devenue la belle-fille de Naomi. Et pendant un temps, il semblait que tout allait bien dans le meilleur des mondes, mais quelque chose est venu briser ce rêve. Et la Bible nous rappelle ces faits. À un moment donné, Naomi, qui était au pays de Moab, s'est retrouvée veuve, son mari est décédé, et ses deux fils aussi sont morts. Elle était dans une profonde détresse, tristesse. Elle a décidé de revenir dans le pays d'Israël, d'où elle était partie. Et lorsqu'elle est arrivée, la parole de Dieu nous dit à Bethléem, toute la ville a été émue parce qu'on connaissait cette femme, Naomi. Naomi, vous savez ce que ça veut dire? Peut-être que vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. Naomi, ça veut dire douceur. Cette femme portait un nom magnifique, douceur. Sa vie était douceur. Sa vie au départ semblait être une réussite. Mais alors que toute la ville s'émeut pour cette femme. Cette femme va dire à ces gens qui l'entourent, « Ne m'appelez plus Naomi. » Naomi, elle n'existe plus. Appelez-moi Mara. Et Mara, ça veut dire amer, ça veut dire amertume. Elle va ajouter quelque chose de particulier. Elle dit, « Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Elle est en train de dire, Dieu m'a rempli d'amertume. C'est Dieu qui a brisé tous mes rêves. C'est Dieu qui est venu frapper ma vie. Bien entendu, si cette histoire s'arrêtait là, il y aurait de quoi être désespéré. Mais il y a une suite. Et avant de vous parler de cette suite, j'aimerais quand même vous expliquer que si Naomi s'appelle aujourd'hui Mara parce que c'est ce qu'elle veut, parce que son cœur est rempli d'amertume, c'est parce qu'elle avait quitté le pays d'Israël, elle était partie de la dépendance de Dieu, elle s'était éloignée dans ce pays étranger. Il ne s'agit pas ici d'un déplacement géographique, mais il s'agit ici d'une portée spirituelle. Lorsque, chers amis, on ne veut pas de la dépendance de Dieu, lorsque on rejette le Seigneur, lorsqu'on ne veut pas qu'il règne sur notre vie, qu'il contrôle notre vie, nous pouvons être amenés à connaître une profonde détresse. Mais regardez ce qui se passe, c'est que dans son épreuve, elle se souvient du Dieu d'Israël, mais elle revient vers lui. Et la chose extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas voulu la maintenir dans l'amertume. La Bible nous montre que justement, elle a été consolée d'une manière particulière. Et elle-même le dira, j'ai été consolée, le Tout-Puissant m'a relevé, il m'a donné cette joie, on pourrait dire, il m'a donné cette douceur que j'avais perdue. Je pensais ne jamais retrouver cette douceur, ne plus jamais connaître cette joie. Mais voici maintenant, je connais la vraie joie, la vraie paix. Et la parole de Dieu nous montre le bonheur que cette femme a maintenant de serrer dans ses bras son petit-fils, elle est heureuse. Et quand on voit l'ascendance de Jésus, quand on voit la généalogie de Jésus, on s'aperçoit que figure cette famille-là, il y a quelque chose de glorieux et de merveilleux. Quand bien même tu as abandonné l'Éternel, quand bien même tu t'es éloigné, quand bien même tu t'es souillé, tu t'es sali, quand bien même aujourd'hui tu te trouverais dans la détresse, brisé, dans l'amertume, le Seigneur te parle et il te dit « Je t'aime, je n'ai jamais cessé de t'aimer, j'aimerais que tu reviennes à moi, je voudrais te voir faire cette démarche, car je ne veux pas que ta vie soit du fiel. » Je ne veux pas que ta vie soit de l'amertume. Je veux que ta vie connaisse la douceur de la grâce. Oui, Christ a le pouvoir de le faire. Et cette histoire de la parole de Dieu est un témoignage. Mais c'est aussi notre histoire. Notre histoire. Certains ont connu la parole de Dieu. Ils ont entendu le témoignage de Jésus-Christ. Et pourtant, ils ont voulu faire leur vie sans Dieu. Mais que penses-tu trouver loin du Seigneur? Que penses-tu trouver de mieux en allant chercher loin de Dieu? Il est notre Créateur. Nul ne pourra nous aimer autant que le Seigneur nous aime. Et s'il y en a un qui est prêt à nous faire du bien, c'est lui. Et pourtant, nous lui tournons le dos, nous lui tournons la face. Nous l'avons méprisé, dit le prophète Ésaïe. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, il nous a aimés. Et malgré notre attitude, il a donné sa vie sur la croix du calvaire. Son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Quel bonheur de le savoir. Mais quelle joie pour moi de vous le dire. Et je voudrais vous dire une chose. C'est que cette parole s'est imposée à moi. Et ce que je partage avec mon cœur simplement cet après-midi, je sais que le Seigneur l'adresse à quelques personnes en particulier cet après-midi. C'est un message d'espoir, un message d'amour. Non, tu n'as pas le droit de rester insensible. Alors que le Seigneur te parle de son amour, le but du Seigneur, c'est de changer l'amer en douceur, de changer ta tristesse en joie. Dieu ne veut pas que tu marches à tâtons sans savoir où tu vas. Et Dieu veut te donner une assurance. Si je continue dans la parole de Dieu, je trouve un autre cas. C'est le cas d'une femme, mais elle n'a pas connu la même épreuve. Elle est dans une profonde frustration parce que son mari a épousé deux femmes et elle fait partie de ces deux femmes. Quand on trouve de tels textes dans la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu approuve que l'homme épouse deux, trois ou quatre femmes. Mais le Seigneur nous trouve sur le chemin, il nous aime dans l'état où nous sommes. Il nous accepte tels que nous sommes et il vient changer notre vie. C'est-à-dire que le Seigneur accepte l'individu tel qu'il est. Quand quelqu'un vient au Seigneur, il vient avec son imperfection, il vient avec son péché, il vient avec sa misère, et c'est au contact de l'Évangile que le changement s'opère, et que toutes ces pratiques sont mises de côté et abandonnées, car le Seigneur avait dit au départ, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quand le Seigneur parle d'amour, il parle de cet amour entre l'homme et la femme, entre un homme et une femme. Il n'est pas dit entre un homme, une femme et une femme. Il est dit un homme et une femme. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit ça, il faut faire attention. En Suède, les pasteurs qui disent ce que je viens de vous dire sont jetés en prison. C'est la Bible qui le dit. Il faut être prêt à l'accepter. Et à comprendre que le Seigneur nous aime tel que nous sommes et qu'il ne s'agit pas de juger qui que ce soit, mais de permettre au Seigneur de nous changer. Lorsque nous venons à Dieu, nous venons à l'état brut, mais le Seigneur change notre vie et il fait de nous de nouvelles créatures. Et pour revenir à ce texte, il est question de deux femmes. Une s'appelait Pénina. Et Pénina avait des enfants. Et à l'époque, c'était un signe de bénédiction, c'était vraiment quelque chose de formidable. Mais Anne, la deuxième femme, puisque c'est d'elle dont il s'agit, elle était stérile. Et parce qu'elle était stérile, alors il y avait un regard particulier sur cette femme. La stérilité n'était pas bien vue. Et il y avait aussi de la jalousie. Pénina était jalouse de Anne parce que il semblait que son mari, leur mari, s'attachait plus à Anne qu'à Pénina. Il y avait des rivalités. Alors, cette femme, Pénina, ça veut dire corail, comme le serpent corail. Peut-être qu'on en parlera dans deux minutes. Mais, vous savez, on trouve sur notre route des serpents, hein. Ils sont là, n'est-ce pas, ils n'ont pas une apparence terrible, mais avec la langue. Il n'y a pas besoin d'être grand et gros pour faire du mal. Un petit bonhomme, une petite bonne femme, pas plus haut que ça, ça peut vous faire beaucoup de mal avec la langue. La langue, dit la Bible, c'est un petit membre, mais quand la langue n'est pas tenue en bride, ça peut faire des ravages. Mais ce n'est pas mon but maintenant, peut-être un peu plus tard. Ce que j'aimerais dire, c'est que cette femme la portait à l'irritation. Elle se moquait de Anne. Elle lui disait toutes sortes de méchantes choses. Et Anne était dans la tristesse. Elle était blessée, imaginez. Mais comment ça se fait, peut-être, qu'elle disait à son mari, comment ça se fait que tu ne me défends pas? Tu pourrais prendre ma défense. Je ne sais pas ce qui se passait exactement là-dedans. Mais la Bible nous dit qu'elle perdait l'appétit, elle dormait plus, elle était dans la tristesse, elle était là en train de se morfondre. Et la Bible nous dit que l'amertume dans l'âme, cette femme était dans l'amertume, parce qu'elle était dans cette situation, parce qu'elle était stérile, elle sentait que dans son corps il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Elle se culpabilisait, elle était là en train de se dire, mais je ne suis pas normal, je ne suis pas comme tout le monde. Elle était là avec de l'amertume dans le cœur, elle sentait son impuissance, elle réalisait qu'elle ne pouvait pas donner de solution, apporter de la joie autour d'elle. Et sans parler forcément de stérilité, peut-être que cet après-midi, c'est ce que tu ressens dans ton cœur. Tu as peut-être ce sentiment de tout rater, de tout échouer, de ne pas procurer la joie que tu devrais procurer. Tu as l'impression que ce que tu mets en route ne réussit jamais. Tu as cette impression difficile et terrible. Et le Seigneur voudrait te dire, mais quoi qu'il en soit, je t'aime. Quelqu'un est venu me dire un jour, il n'y a pas bien longtemps, vous vous intéressez à mon cas, mais vous ne devriez pas. Et j'ai dit pourquoi? Parce que tous ceux qui cherchent à m'aider, il leur arrive malheur. C'est terrible d'avoir ce sentiment que tous ceux qui vous tendent la main tombent dans les pièges, se font mal. Il y a là comme une malédiction. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de malédiction qui tienne. Nous avons un Dieu qui est vivant et tout-puissant. Alléluia. Il change l'amertume en douceur. Et cette femme est venue dans la maison de Dieu. Elle ne savait pas prier à haute voix comme il fallait. Elle murmurait quelque chose. L'homme de Dieu ne comprenait pas ce qu'elle était en train de faire. Elle a été même mal jugée quand elle est venue à l'église pour la première fois. Le pasteur de l'époque croyait qu'elle était ivre. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as bu. Tu devrais aller ailleurs pour cuver ton vin. C'est terrible. Et c'est vexant, n'est-ce pas? Peut-être que vous ne vous êtes pas senti accueilli comme vous auriez voulu être accueilli. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur connaît votre cœur. Il connaît la situation dans laquelle vous êtes. Et cet homme s'est ressaisi et il a demandé la bénédiction sur cette femme. Et le Seigneur a honoré la foi de cette femme. Le Seigneur a béni cette femme d'une manière toute particulière. Elle a donné naissance à un enfant dans l'année qui a suivi. Cet enfant, c'est Samuel. Et on lui a donné le nom de Samuel qui veut dire « Dieu a exaucé ». Je voudrais te dire que ta prière, le Seigneur l'a entendue. Il a entendu la prière secrète de ton cœur. Dieu est un Dieu qui exauce. Il change l'amertume en douceur. Nous avons parlé tout à l'heure de Job. Mais Job, c'est un homme qui a été terriblement éprouvé. Pour cette raison qu'à plusieurs reprises, et si je prends un autre texte du livre de Job par rapport à celui que j'ai lu, il est dit, c'est pourquoi je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Cet homme est dans la douleur, comme lui, comme Anne, comme ces cas que je cite, comme ceux que vous pouvez voir autour de vous peut-être, dans l'existence, dans votre famille, c'est peut-être votre cas à vous. On pourrait dire qu'il y a des amertumes qui sont logiques, qui sont normales, parce qu'elles sont le résultat de la douleur, et on comprend que Anne soit dans l'amertume, on comprend que Job, qui est dans le deuil, qui est malade dans son corps, soit dans l'amertume. On comprend de ces situations que ces gens-là soient dans l'amertume. C'est normal. Si tu as souffert toute ta vie, et si tu es dans l'amertume aujourd'hui, c'est normal. S'il y a de la tristesse dans ton cœur, c'est normal. Mais ce que j'aimerais te dire, et c'est là le message de l'Évangile, c'est que le Seigneur est tout-puissant pour changer ton amertume en douceur. Il est venu et il s'est penché vers les cœurs brisés. Il s'est intéressé à ceux qui étaient dans la souffrance. La souffrance, c'est peut-être la souffrance qui est décrite dans le livre des Proverbes. Quand nous avons lu tout à l'heure qu'un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de sa mère, peut-être que l'amertume qui est dans ton cœur, femme, dans ce lieu cet après-midi, c'est à cause de tes enfants qui ont mal tourné, qui se sont mal comportés. Je me suis trouvé un jour dans le quartier d'Harlem, aux États-Unis, là-bas à New York, et nous avons assisté à un culte. Et j'ai assisté à un culte dans une église baptiste réveillée, et il y avait là une intensité particulière dans cette assemblée où il n'y avait que des personnes de couleur noire. Il y avait là des cœurs qui étaient ouverts. À Harlem, on peut comprendre, pour bénir Dieu, il n'y avait que pratiquement que des femmes. Et à un moment donné, il y a une grand-mère qui s'est levée et qui a commencé à louer le Seigneur. Et cette grand-mère, en louant le Seigneur, était en train d'exprimer quelque chose. Et comme je ne comprends rien en anglais, je me suis fait interpréter. Son mari et son fils étaient en prison. Et cette femme se retrouvait seule. Elle était là en train de dire au Seigneur, regarde ma peine, regarde ma tristesse. Mais alors qu'elle était en train de louer le Seigneur de cette manière-là, elle disait au Seigneur des paroles tellement fortes. Elle n'était pas en train de se plaindre. C'est comme si d'un seul coup, elle amenait sa détresse au Seigneur et que la réponse lui était donnée. Oui, je verrai mon fils. Oui, je verrai mon mari se convertir, donner leur cœur au Seigneur, naît dans son cœur une espérance. Et d'après ce que j'ai compris, un travail se faisait dans la prison où on allait interpeller ces personnes pour leur parler de l'amour de Dieu. Oui, tu peux être dans l'amertume à cause d'une situation que tu vis. Jamais tu n'aurais pu penser une chose pareille, mais elle est arrivée et tu te dis, mais comment en sortir? Fais confiance au Seigneur. Il va mettre un baume sur ton âme. Il va te mettre dans ton cœur sa paix. Il va mettre dans ton âme une sérénité formidable et te donner une assurance pour que tu relèves la tête. Il est le Dieu des miracles. Et maintenant, en quelques mots, je voudrais parler d'une autre forme d'amertume. C'est plus l'amertume qui est occasionnée par des circonstances et qui serait logique, mais cette fois-ci, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de l'amertume qui remplit le cœur de quelqu'un qui est blessé, qui a été blessé, mais qui n'accepte pas. Et dans son cœur, il nourrit un sentiment d'amertume. Son seul désir, c'est de se venger. Il est là en train de se laisser ronger par son amertume. Et il se dit, ça se passera pas comme ça. Je lui réserve un chien de ma chienne. Le mal que l'on m'a fait ne sera pas impuni. Cette personne nourrit des sentiments de révolte. Il y a un désir, c'est d'utiliser la langue, mais cette fois-ci comme Pénina, pour blesser. Ce sont des personnes qui, avec leur langue, sont capables de faire des ravages. Vous n'êtes peut-être pas l'auteur de la blessure, mais si vous vous trouvez sur le chemin de cette personne ou de ces personnes, vous en prenez plein la tête, plein le cœur. Il y a là de la révolte. La Bible nous dit, et c'est Jacques qui nous parle, la langue d'un homme, qui peut la dompter ? Surtout quand le cœur est rempli d'agressivité, de méchanceté. Qui peut la dompter? C'est comme un petit feu qui embrase une grande forêt. Et c'est vrai que la langue, lorsqu'elle se délie pour exprimer l'amertume qui est dans le cœur, elle peut faire des ravages. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Nous l'avons lu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et il est ajouté aussitôt, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce qui veut dire que l'amertume peut produire une infection. Lorsqu'il y a une infection dans le corps, c'est terrible, parce que l'infection, c'est des cellules qui meurent. L'infection de l'amertume, elle part du diable et du cœur du diable lui-même. Mais c'est l'infection de la mort. Et ça peut faire des ravages, car quand on se laisse gagner par ces sentiments terribles, alors on est soi-même empoisonné dans tout notre être. On ne profite plus de la vie, on ne connaît plus la joie. Il y a là dans notre esprit une pensée de vengeance. On espère que la personne qui nous a fait du mal en prenne plein la tête. Et on ne vit que pour ça, on n'attend que ça, on cherche l'occasion, on se pourrit la vie soi-même. Mais non seulement on se pourrit la vie, mais on pourrit la vie des autres. L'infection, cette contamination, elle touche le couple.
cet homme ou cette femme qui était charmant à cause de cette amertume, maintenant, ils réagissent avec agressivité. Il y a là comme une contamination. Mais je te reconnais plus, chérie. Tu n'es plus la même. Tu n'es plus le même. Eh oui, il y a quelque chose qui est en train de ronger ton âme. Peut-être que ta langue, elle est tellement souillée que ton désir, c'est pas seulement de te venger, mais de créer la panique autour de toi. Alors tu utilises cette langue pour aller semer la panique dans le couple de ton frère, de ta sœur, de ta famille, de tes parents ou de tes enfants. Tu voudrais que tout le monde soit malheureux parce que toi, tu es pris dans ton cœur par des sentiments mauvais. Peut-être que vous dites, mais ce pasteur, il est en train de noircir le tableau. Je suis en train de toucher du doigt une réalité. Et même si cette réalité ne concerne qu'une seule personne, je veux veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne demeure là au milieu de nous. Veux-tu que le Seigneur vienne travailler le terrain de ton cœur? Veux-tu que le Seigneur vienne te débarrasser de ce qui, dans ta vie, te fait la guerre? Cette femme qui s'est retrouvée dans le camp de concentration et qui a été malmenée dans ce camp de concentration. Corrie ten Boom. Elle est sortie du camp de concentration où sa sœur est morte dans ses bras. Mais elle s'est attachée au Seigneur. Et un jour, elle s'est retrouvée dans une église où un homme venait de s'approcher du Seigneur. Et cet homme, c'était un de ses bourreaux. Vous pouvez imaginer le sentiment qu'elle a ressenti, mais le chemin qu'elle a choisi, c'est celui du pardon, d'être délivrée de ce sentiment qui pourrait la ronger intérieurement. C'est beau de voir l'œuvre de Dieu dans un cœur qui nous donne la force de pardonner, en sachant très bien que si nous pouvons pardonner, c'est parce que un nous a pardonné avant. Il a lavé nos cœurs, il nous a purifiés de nos fautes. Alors, que désirez-vous? Quand je lis l'Écriture dans Matthieu 21, il est dit, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur. » Cette douceur, c'est la douceur de Jésus, c'est la douceur de sa vie, c'est la douceur de sa grâce. Il est venu et il a donné sa vie sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés et pour que nos vies soient changées. Il nous tend la main et il nous sort de l'élément qui est en train de nous entraîner à la mort, à la perdition, comme on sentirait quelqu'un qui est en train de se noyer. Mais ensuite, il nous débarrasse de tous ces sentiments. J'ai parlé d'amertume, mais on aurait pu parler d'autre chose. On aurait pu parler de jalousie, on aurait pu parler d'autres sentiments. Il nous en débarrasse pour que notre cœur puisse lui offrir un temple dans lequel il habite. Chers amis, c'est avec amour que nous vous prêchons l'Évangile, c'est avec joie que nous vous recevons dans ce lieu, car notre désir, c'est de vous dire que le Seigneur vous aime et qu'il a décidé de pardonner vos péchés, de purifier votre âme, de vous donner sa joie et sa paix, et de vous accorder l'assurance de la vie éternelle, car le désir de Dieu, c'est de vous avoir avec lui dans le ciel lorsqu'il reviendra vous chercher. Que voulez-vous? Qu'allez-vous faire? On pourrait longuement parler sur ce sujet encore, mais je vais arrêter là et vous demander de réfléchir quelques instants. On va courber nos têtes et on va fermer nos yeux et je vais m'adresser à chacun et à dire cet après-midi, y a-t-il quelqu'un qui se sent concerné? Peut-être que toi, tu n'as pas l'amertume, mais tu as causé l'amertume. Tu sens que ton comportement n'a pas été le bon comportement. Tu as fait du mal autour de toi. Mais le Seigneur veut te pardonner. Le Seigneur veut te pardonner. Peut-être que tu t'es éloigné du Seigneur. Tu as l'impression, le sentiment d'avoir gâché quelque chose, perdu du temps, blessé ta vie. Le Seigneur te dit, reviens, comme le fils prodigue, reviens à ton père, enfant égaré. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Il est ce Dieu qui pardonne. Nous allons rester quelques courts instants dans la prière. Et je voudrais lancer un appel cet après-midi. Y a-t-il un garçon, une fille, un homme, une femme qui veut répondre à l'invitation du Seigneur et qui voudrait dire, moi Seigneur, je voudrais que ça change, je voudrais connaître la douceur de ta vie, je veux que tu me pardonnes Seigneur, je veux que tu me délivres Seigneur. Mais fais confiance au Seigneur, tu ne le regretteras pas. Fais confiance au Seigneur cet après-midi et laisse le Seigneur t'inonder de sa grâce. Laisse le Seigneur remplir ton cœur. Nos regards sont sur toi, Seigneur, et nous nous attendons à ton intervention. Accorde ta grâce à chacun. Nous te le demandons au nom de Jésus. Tu es le Sauveur, le Libérateur, dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen.